Chapitre 2. Conte du crochet. 1. La frontière entre la science-fiction et le fantastique, en ce qui me concerne, le fantastique est ce qu'il est, l'horreur n'en est qu'un sous-genre, est un sujet que l'on aborde inévitablement dans toutes les conventions de fantastique ou de science-fiction. Et pour ceux d'entre vous qui ignorent tout de cette subculture, il s'en tient plusieurs centaines chaque année. Si on m'avait donné 5 cents, chaque fois qu'une lettre sur la différence entre fantastique et science-fiction était publiée dans une revue spécialisée, amateur ou professionnelle, j'aurais pu m'acheter l'archipel des Bermudes. C'est un piège, cette histoire de définition. Et c'est aussi le plus barbant des sujets universitaires. Tout comme le débat sur le rythme dans la poésie moderne ou le rôle de la ponctuation dans la nouvelle, celui-ci a autant d'intérêt que la célèbre controverse sur le nombre d'anges pouvant danser sur une tête d'épingle. Et il n'attire que les pochards et les étudiants en première année de lettres. Deux catégories d'individus du même niveau d'incompétence. Je me contenterai donc d'énoncer les évidences. Le fantastique et la science-fiction relèvent tous deux de la littérature de l'imaginaire. Et tous deux tentent de créer des univers qui n'existent pas, qui ne peuvent pas exister ou qui n'existent pas encore. Il y a une différence, bien entendu. Mais je vous laisse le soin de tracer vos propres frontières si ça vous amuse. Et vous constaterez alors qu'elles ne sont guère imperméables. Alien, par exemple, est un film d'horreur. Et ce, bien qu'il soit basé sur des perspectives scientifiques plus sérieuses que la guerre des étoiles. Ce dernier film relève de la science-fiction, bien qu'il nous faille admettre qu'il s'agit là d'une SF primitive, dans la veine de Murray Leinster et de E.E. Doc Smith, un western d'outre-espace ruisselant d'esprit pionnier. Quelque part entre ces deux films se trouve une zone tampon que le cinéma n'a guère exploitée et qui est peuplée de films mélangeant science-fiction et fantastique d'une façon qui n'a rien d'horrifique. Rencontre du troisième type, par exemple. Vu le nombre de sous-genres répertoriés, et n'importe quel fan de science-fiction ou de fantastique pourrait vous en réciter une bonne douzaine, de l'utopie à la dystopie, de l'histoire du futur à l'heroic fantasy, en passant par la Sword and Sorcery, etc., ad nauseam, vous comprendrez que je ne souhaite pas ouvrir le débat plus qu'il n'est strictement nécessaire. Au lieu de vous sortir des définitions, permettez-moi plutôt de vous offrir quelques exemples. Et après, on pourra passer à la suite. Et pourrait-on rêver meilleur exemple que le cerveau du nabab ? L'horreur n'est pas nécessairement dénuée d'arguments scientifiques. Le cerveau du nabab, le roman de Kurt Siodmak, part d'un postulat scientifique pour déboucher sur l'horreur pure, tout comme Alien. Il a fait l'objet de 2 adaptations cinématographiques qui ont connu toutes deux un certain succès populaire. Le personnage principal du roman, comme des 2 films, est un savant qui, quoique pas tout à fait fou, opère de toute évidence à l'extrême limite du rationalisme. Nous pouvons donc le considérer comme un authentique descendant de Victor Frankenstein, le propriétaire du premier labo de Cinglé. Cet homme de science travaille sur une technique destinée à maintenir le cerveau en activité après la mort de l'organisme. Pour être plus précis, en le plaçant dans un aquarium empli d'une solution saline électriquement chargée. Dans le roman, l'avion privé de W.D. Donovan, un millionnaire à forte personnalité, s'écrase dans le désert non loin du labo de notre savant. Saisissant l'occasion qui se présente à lui, celui-ci décalote le crâne du millionnaire mourant et plonge le cerveau du nabab dans son aquarium. Jusqu'ici, rien à signaler. Une histoire relevant à la fois de l'horreur et de la science-fiction. Elle pourrait évoluer dans l'une ou l'autre de ces 2 directions, suivant la façon dont Siodmak va décider de traiter son sujet. La première adaptation cinématographique abat ses cartes presque tout de suite. L'opération chirurgicale se déroule en plein milieu d'une tempête, et le laboratoire du savant ressemble au manoir des Baskerville. Et aucun des 2 films n'est à la hauteur du terrifiant récit que Siodmak compose au moyen d'une prose sobre et rationnelle. L'opération est un succès. Le cerveau a survécu et peut-être même qu'il continue de penser dans son aquarium empli de liquide trouble. Le problème est maintenant de communiquer avec lui. Le savant essaye tout d'abord de le contacter par télépathie et finit par réussir. À moitié en état de transe, il gribouille le nom de W.D. Donovan sur un bout de papier et une comparaison graphologique montre que cette signature est impossible à distinguer de celle du nabab. Mais le cerveau de Donovan commence à s'altérer et à muter dans son aquarium. Sa force s'accroît et il devient capable de dominer mentalement notre jeune héros. Celui-ci obéit sans discuter aux ordres du millionnaire, des ordres dictés par un souci obsessionnel de trouver un héritier convenable. Le savant commence à souffrir des infirmités qui affligeaient le corps de Donovan, lequel pourrit en paix dans une tombe anonyme. Mal de dos et pâte folle. Alors que le récit approche de sa conclusion, Donovan tente de se servir du savant pour y éliminer une petite fille dont l'existence est un obstacle à ses monstrueux desseins. Dans l'une des deux adaptations cinématographiques, la belle et jeune épouse, qui brille par son absence dans le roman de Siodmak, fait bouillir le cerveau dans son aquarium avec l'aide d'un paratonnerre. À la fin du livre, le savant attaque l'aquarium à coups de hache, résistant aux assauts mentaux de Donovan grâce à une phrase mnémonique toute simple mais mémorable. « He thrust his fist against the post and still insists he sees the ghost. » Le verre se brise, la solution saline se déverse sur le sol et l'horrible cerveau encore palpitant meurt comme une limace sur le carreau. Siodmak est un écrivain à l'intelligence remarquable et au style efficace. Le flot de spéculation du cerveau du nabab est aussi excitant à suivre que dans un roman d'Isaac Asimov, d'Arthur C. Clarke ou du regretté John Wyndham, un de mes auteurs préférés dans ce domaine. Mais aucun de ces trois gentlemen n'a écrit un roman qui ressemble au cerveau du nabab. Il s'agit en fait d'une œuvre unique. L'épisode le plus surprenant se situe à la fin du livre, lorsque le neveu de Donovan, ou peut-être était-ce son fils illégitime, du diable si je m'en souviens, est pendu pour meurtre. La trappe de l'échafaud refuse de s'ouvrir, à trois reprises, lorsque l'on abaisse la manette qui l'actionne. Et le narrateur émet l'hypothèse que l'esprit de Donovan est encore vivant, indomptable, implacable et affamé. En dépit de ces ingrédients scientifiques, le cerveau du nabab relève de l'horreur tout autant que Sortilège, le conte classique de M.R. James, ou encore La couleur tombée du ciel, le court roman de H.P. Lovecraft, que certains ont pu rattacher à la science-fiction. Maintenant passons à une autre histoire, un récit oral qu'il a toujours été inutile de transcrire. Ce conte se transmet en général de bouche de scout à oreille de scout, autour d'un feu de camp, quand le soleil est couché, quand les marshmallows cuisent au-dessus des braises. Vous le connaissez sûrement, mais plutôt que de le résumer, je préfère le raconter tel que je l'ai entendu pour la première fois, muet de terreur, alors que le soleil se couchait derrière le terrain vague de Stratford, où on improvisait des matchs de baseball, quand on avait assez de monde pour former deux équipes. Voici l'histoire d'horreur la plus basique que je connaisse. C'est un type et sa copine qui sortent le soir. D'accord? Et ils vont se garer sur le sentier des amoureux. Et pendant qu'ils y vont, la radio interrompt son programme pour diffuser un message. Un dangereux maniaque surnommé le Crochet vient de s'évader de l'asile d'aliénés de Sunnyvale. On l'appelle le Crochet parce qu'il en a un à la place de la main droite. Un crochet tranchant comme un rasoir. Et avant d'être interné, il traînait tout le temps autour du sentier des amoureux, et quand il tombait sur un mec et une fille en train de se ploter, il leur coupait la tête avec son crochet. C'est parce que le crochet était vraiment tranchant qu'il en était capable, tu vois. Et quand les flics l'ont capturé, ils ont trouvé une vingtaine de têtes coupées dans son frigo. Alors le speaker dit aux auditeurs qu'ils doivent faire gaffe s'ils voient un type avec un crochet à la place de la main droite, et il leur dit aussi de rester à l'écart des endroits sombres et isolés où les jeunes gens vont faire ce que tu devines. Alors la fille dit « Rentrons à la maison, d'accord ?» Et le mec, c'est un mec vraiment balèze, tu vois, avec des muscles partout, il dit « Ce type ne me fait pas peur, et de toute façon, il est sans doute déjà loin. » Alors la fille insiste « Écoute, Louis, j'ai vraiment la trouille. L'asile de Saint-Nivelle est tout près d'ici, rentrons chez moi. Je vais te préparer du pop-corn et on regardera la télé. » Mais le mec ne veut rien savoir. Et ils arrivent bientôt sur le belvédère. Ils se garent au bout de la route et ils commencent à se faire des mamours. Mais elle n'arrête pas de dire qu'elle veut rentrer chez elle, parce qu'il n'y a pas d'autres voitures dans les parages, tu vois. L'histoire du crochet a foutu la frousse à tout le monde. Mais lui, il lui dit « Allez, n'aie pas peur comme ça. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Et puis, je suis là pour te protéger. » Ce genre de baratin. Alors il continue à se ploter, et puis soudain elle entend un bruit. Une branche qui se brise ou quelque chose comme ça. Comme s'il y avait quelqu'un dans le bois, quelqu'un qui s'approchait en douce. Alors elle commence vraiment à s'affoler. La crise d'hystérie, les larmes et tout le reste, comme une fille qu'elle est. Elle supplie son copain de la ramener chez elle. Le mec lui dit et lui répète qu'il n'a rien entendu, rien du tout. Mais elle jette un coup d'œil dans le rétro et elle croit voir quelqu'un tapis derrière la voiture, quelqu'un qui les regarde avec un sourire sinistre. Alors elle dit au mec que s'il ne la ramène pas chez elle, elle ne sortira plus jamais avec lui, un point c'est tout. Finalement, il démarre et il fonce à toute berzingue tellement il est furieux contre elle. En fait, il manque même de se payer un arbre. Bref, les voilà revenus chez elle, tu vois. Et le mec descend pour aller ouvrir la porte à la fille, et quand il a fait le tour de la voiture, il reste planté là. Il est blanc comme un linge et il a des yeux comme des soucoupes. Elle lui dit « Qu'est-ce qu'il y a, Louis ?» Et il tombe dans les pommes, là, sur le trottoir. Elle descend de la voiture pour voir ce qui se passe, et quand elle referme la portière, elle entend un drôle de cliquetis, et elle se retourne pour voir ce que c'est. Et là, pendu à la poignée, il y a un crochet tranchant comme un rasoir. L'histoire du crochet est un classique de l'horreur, un récit simple et brutal. Elle est totalement dépourvue d'analyse psychologique, de thème et de style. Elle ne se propose pas de décliner un symbole esthétique, ni de témoigner de la condition humaine ou des mœurs du temps. De telles ambitions sont le propre de la littérature. Voir par exemple la nouvelle de Flannery O'Connor, « Les braves gens ne courent pas les rues », qui ressemble beaucoup à l'histoire du crochet par son intrigue et sa construction. Non, cette histoire existe pour une raison et une seule. Foutre la trouille aux petits-enfants quand le soleil s'est couché. On pourrait l'enjoliver en faisant du crochet un monstre venu de l'espace, et sa capacité à se transporter instantanément en se jouant des parsecs s'expliquerait alors par la propulsion photonique ou encore l'hyperespace. On pourrait également en faire une créature venue d'un univers parallèle, comme dans les bouquins de Clifford D.C. Mac. Mais aucune de ces conventions SF ne transformerait l'histoire du crochet en récit de science-fiction. Il s'agit d'un conte de terreur. Un point c'est tout. Et sa narration linéaire, sa brièveté et le caractère primordial de sa chute le rendent remarquablement similaire à La Nuit des Masques, alias Halloween 1 de John Carpenter. C'est elle, Croque-Mitaine, déclare Jamie Lee Curtis à la fin de ce film. Oui, répond Donald Pleasence à voix basse. En fait, c'était bien lui. Ou encore, à son Fogg. Ces deux films sont extrêmement terrifiants. Mais l'histoire du crochet leur est bien antérieure. C'est là que je veux en venir. L'horreur est, indépendamment de toute définition et de toute rationalisation. Dans un article paru dans Newsweek, qui avait titré sa couverture « Hollywood, l'été de la terreur », en cet été 1979 étaient sortis « Fantasme »,« Prophecy »,« Zombie »,« Morsure » et « Alien », un journaliste remarquait que les scènes les plus impressionnantes d'Alien semblait arracher aux spectateurs des gémissements de révulsion plutôt que des cris de terreur. Difficile de contester cette observation. Le spectacle d'une sorte de crabe gélatineux collé au visage d'un homme est déjà peu ragoûtant. Mais la célèbre scène d'expectoration qui suit représente un saut quantique dans le domaine du répugnant. Et en plus, ça se passe à table. De quoi vous dégoûter du pop-corn. En guise de définition ou de rationalisation, permettez-moi quand même de suggérer que le genre se manifeste sur trois niveaux différents, par ordre décroissant de finesse. Au sommet se trouve la terreur. Cette émotion que suscite l'histoire du crochet, ainsi qu'un vieux classique intitulé « La main de singe » de W.W. Jacobs. Nous ne voyons rien de déplaisant dans chacune de ces deux histoires. Dans la première, nous avons le crochet pendu à la portière, et dans la seconde, cette fameuse patte, qui bien que sèche et momifiée, n'est pas plus terrifiante qu'une crotte de chien en plastique, comme on en trouve dans les magasins de farce et attrape. C'est le travail de l'imagination qui fait de ces histoires des classiques de la terreur. Les spéculations déplaisantes auxquelles se livre le lecteur de Jacobs quand on frappe à la porte et que la vieille dame endeuillée se précipite pour ouvrir. Et lorsqu'elle réussit à ouvrir la porte, il n'y a rien sur le seuil excepté le vent. Mais qu'aurait-elle découvert si son mari avait un peu lambiné avant de formuler son troisième souhait? Quand j'étais gamin, j'ai découvert l'horreur grâce au EC Comics de William M. Gaines. Weird Science, Tales from the Crypt, The Vault of Horror, et à tous leurs imitateurs. Mais à l'instar d'un bon disque d'Elvis Presley, les revues de Gaines étaient souvent imitées, mais jamais égalées. Ces BD des années 1950 représentent toujours pour moi le comble de l'horreur, cette émotion teintée de peur qui sous-tend la terreur. Une émotion légèrement moins raffinée parce qu'elle ne participe pas uniquement de l'esprit. L'horreur entraîne également une réaction physique, en nous montrant quelque chose de physiquement anormal. Voici le résumé d'une histoire typique des EC Comics. La femme du héros et l'amant de celle-ci décident de l'éliminer afin de pouvoir filer le parfait amour. Dans toutes les BD d'horreur des années 1950, les femmes apparaissent comme des créatures charnelles, séduisantes, épanouies, mais fondamentalement maléfiques. Des salopes castratrices qui, telles la veuve noire, semblent instinctivement vouloir prolonger l'acte d'amour par une séance de cannibalisme. Nos deux sinistres méchants, qui pourraient sortir des pages d'un roman de James M. Cain, emmènent le pauvre mari faire un tour en voiture, et l'amant lui loge une balle entre les deux yeux. Puis il lui attache un bloc de béton au pied et le jette dans une rivière. Deux ou trois semaines plus tard, notre héros, réduit à l'état de cadavre vivant, émerge de la rivière, à moitié pourri et dévoré par les poissons. Il va alors retrouver sa femme et son assassin, et on a l'impression que ce n'est pas pour leur offrir l'apéritif. Parmi les dialogues de cette histoire, en voici un que je n'ai jamais oublié. « J'arrive, Marie, mais j'arrive lentement, car il ne cesse de tomber des petits bouts de mon corps. » Dans La main de singe, l'auteur se contente de stimuler l'imagination du lecteur, à celui-ci de faire le reste du travail. Dans les BD d'horreur, ainsi que dans les pulps d'horreur des années 1930-1935, les viscères entrent aussi en jeu. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, le vieillard de La main de singe a le temps de faire disparaître l'horrible apparition avant que sa femme ait ouvert la porte. Dans Tales from the Crypt, la chose venue du tombeau est encore là quand on ouvre la porte, et elle n'est pas belle à voir. La terreur, c'est le pouls du vieil homme qui continue de battre dans le cœur révélateur. Un bruit saccadé, semblable à celui que fait une montre enveloppée dans du coton. L'horreur, c'est le monstre amorphe, mais bien concret, dans la merveilleuse nouvelle de Joseph Payne Brennan, la créature de l'abîme, quand il enveloppe de sa masse un chien hurlant. Mais il existe un troisième niveau, celui de la révulsion. C'est apparemment de ce niveau que relève la scène d'expectoration d'Alien. Mais pour illustrer mon propos, j'ai préféré choisir comme exemple d'histoire répugnante un des classiques des EC Comics, Fall Play, dessiné par Jack Davis, est paru dans The Hound of Fear. Et si vous êtes assis dans votre salon en train de grignoter des chips ou des biscuits tout en bouquinant, je vous conseille de poser votre casse-croûte quelques instants, parce que à côté de cette histoire, la scène d'expectoration d'Alien ressemble à un extrait de La Mélodie du Bonheur. Vous remarquerez que cette histoire est totalement exempte de logique, de motivation et d'analyse psychologique, mais tout comme dans l'histoire du crochet, la ligne narrative est ici un moyen plutôt qu'une fin. Le moyen de vous amener aux trois dernières cases de la dernière planche. Fall Play est l'histoire de Herbie Satan, lanceur dans l'équipe de baseball de Bayville. Herbie représente l'apothéose du méchant des EC Comics. Il est totalement négatif, dénué de toute qualité rédemptrice, le monstre absolu. C'est un être rusé, vindicatif, égocentrique, prêt à commettre toutes les bassesses pour arriver à ses fins. Il éveille l'animal en chacun de nous. Nous serions ravis de le voir pendu au pommier le plus proche et au diable les droits civiques. Alors que son équipe mène d'un point dans la dernière manche, Herbie réussit à atteindre la première base en faisant semblant d'être frappé par la balle. En dépit de ses airs de balourd, il fonce vers la deuxième base au coup suivant. Sur la dite deuxième base se trouve le batteur vedette de Central City, Jerry Deegan, un chic type. Deegan, nous dit-on, est en position de gagner la partie pour son équipe dans la deuxième moitié de la dernière manche. Le maléfique Herbie Satan effectue un tacle meurtrier en atteignant la deuxième base, mais ce brave Jerry tient bon, et Satan est retiré. Jerry a été blessé par les crampons de Satan, mais ses blessures sont sans gravité. Du moins, en apparence. En fait, Herbie a imbibé ses crampons d'un poison aussi rapide qu'il est fatal. Lorsque commence la deuxième moitié de la dernière manche et que Jerry prend position sur la plaque de but, la partie semble jouée. Les choses s'annoncent bien pour l'équipe de Central City. Malheureusement, Jerry tombe raide mort à l'instant même où l'arbitre siffle la troisième frappe. Un sourire hideux se peint sur les traits maléfiques de Herbie Satan. Le soigneur de Central City découvre que Jerry a été empoisonné. « Il faut appeler la police !» dit l'un des joueurs. Un autre réplique d'une voix glaciale. « Non, attendez. Nous allons nous occuper de lui à notre façon. » L'équipe de Central City écrit à Herbie pour l'inviter au stade où lui sera remise une plaque célébrant sa réussite sportive. Herbie, apparemment aussi bête que méchant, tombe dans le panneau. Et la scène suivante nous montre les 9 joueurs de Central City sur le terrain. Le soigneur a revêtu une tenue d'arbitre. Il se trouve près de la plaque de but, laquelle ressemble étrangement à un cœur humain. Sur la pelouse, en guise de ligne blanche, on trouve des intestins. Les bases sont constituées à partir de divers morceaux du corps de Herbie Satan. Dans l'avant-dernière case, nous découvrons que le batteur brandit une jambe coupée en guise de batte. Quant au lanceur, c'est une tête horriblement tuméfiée qu'il se prépare à lancer. Cette tête, où un œil pend horriblement au bout de son nerf optique, semble être déjà entré en contact avec une batte, mais vu la façon dont Davis l'a dessiné, ses fans de l'époque le surnommaient « le jovial Jack Davis », ces temps-ci, il dessine parfois la couverture de TV Guide, elle ne tiendra plus le coup très longtemps. Comme on dit dans le jargon du baseball, c'est une balle morte. Le gardien de la crypte apporte à cette scène macabre la conclusion suivante, qui débute par l'immortel gloussement qui était la marque de fabrique des EC Comics. Hey, hey! Ainsi s'achèvent les pages sportives de ce magazine, mes enfants. C'est ainsi que Herbie le lanceur a perdu la tête et s'est retrouvé hors jeu pour la vie. Comme on le voit, La main de singe et Fall Play sont tous deux des histoires d'horreur. Mais plusieurs années-lumière séparent leur stratégie et leur effet respectif. On comprendra également pour quelles raisons les éditeurs de BD américains ont procédé à un nettoyage en règle au début des années 1950, avant que le Sénat se décide à le faire à leur place. Résumons-nous. La terreur au sommet, l'horreur en dessous et la révulsion tout à fait en bas. En tant qu'écrivain et ayant déjà sévi dans le domaine de l'horreur, ma philosophie me pousse à reconnaître ces distinctions parce qu'elles peuvent parfois s'avérer utiles, mais à éviter de préférer une émotion à l'autre par seul souci de la qualité de l'effet obtenu. Le problème avec les définitions, c'est qu'elles ont tendance à se transformer en outils critiques. Et ce genre de critique, que j'appellerais la critique par cœur, me semble inutilement restrictif, voire dangereux. Je reconnais que la terreur est la plus raffinée de ces trois émotions. Un usage presque parfait en est fait par Robert Wise dans son film « La maison du diable » où, comme dans « La main de singe », on ne nous laisse jamais voir ce qu'il y a derrière la porte. Et je m'efforce donc de terrifier le lecteur. Mais si je me rends compte que je n'arrive pas à le terrifier, j'essaye alors de l'horrifier. Et si ça ne marche pas non plus, je suis bien décidé à le faire vomir. Je n'ai aucune fierté. Quand j'ai conçu l'histoire de vampire qui est devenue Salem, j'ai décidé de faire en partie de mon roman un hommage littéraire, tout comme Peter Straub l'a fait avec Ghost Story, travaillant dans la tradition de spécialistes classiques de l'histoire de fantômes tels que Henry James, M.R. James et Nathaniel Hawthorne. Si bien que mon roman présente des ressemblances intéressantes avec le Dracula de Bram Stoker. Et au bout d'un certain temps, j'avais la sensation de jouer une intéressante, du moins l'était-elle pour moi, partie de squash littéraire. Salem était la balle, et Dracula le mur sur lequel je la lançais sans me lasser, attendant de voir de quelle façon elle allait rebondir. En fait, certains des rebonds ont été des plus passionnants. Et j'attribue cette réussite au fait que, bien que ma balle ait été fabriquée au XXe siècle, le mur sur lequel je la lançais était un pur produit du XIXe siècle. En même temps, comme le vampire était un habitué des EC Comics qui m'avait tant marqué dans ma jeunesse, j'ai décidé d'intégrer aussi à mon roman cet aspect de l'histoire d'horreur. Parmi les scènes de Salem présentant des parallèles avec des scènes de Dracula, on trouve celle où Susan Norton est tuée à coups de pieu. Un sort correspondant à celui que Stoker inflige à Lucy Westenra. Celle où le père Callahan boit le sang du vampire. Dans Dracula, c'est Mina Murray Harker qui est obligée de célébrer cette perverse communion avec le comte, qui prononce à cette occasion ces mots glaçants. « Ma source de vie, pour un temps. » Celle où la main de Callahan prend feu, alors qu'il tente d'entrer dans son église pour y recevoir l'absolution. Lorsque, dans Dracula, Van Helsing pose une hostie consacrée sur le front de Mina pour la purifier du contact impie du comte, l'hostie s'enflamme en laissant une horrible cicatrice et, bien entendu, le groupe d'intrépides chasseurs de vampires qui se forme dans les deux livres. Les scènes de Dracula que j'ai choisi d'adapter pour mon usage personnel sont celles qui m'avaient le plus impressionné, celles que Stoker semble avoir écrites dans un état de fièvre. Il y en a bien d'autres, mais le seul élément du livre de Stoker qui a disparu de la version définitive du mien, ce sont les rats. Dans Dracula, les intrépides chasseurs de vampires, Van Helsing, Jonathan Harker, le docteur Seward, Lord Godalming et Quincy Morris pénètrent dans le sous-sol de Carfax, la demeure anglaise du comte. Celui-ci a vidé les lieux depuis belle lurette, mais il y a laissé certains de ses cercueils de voyage, des boîtes emplies de sa terre natale, ainsi que d'autres surprises désagréables. Peu de temps après l'arrivée des ICV, le sous-sol grouille de rats. À en croire le folklore, et dans ce long roman, Stoker exploite à fond le folklore vampirique, le vampire a le pouvoir de dominer les animaux inférieurs, les chats, les rats, les fouines, et peut-être même les républicains, ha ha! C'est Dracula qui a envoyé ses rongeurs pour embêter nos héros. Mais Lord Godalming avait prévu le coup. Il donne un coup de sifflet, et surgissent alors deux ou trois terriers qui ont vite fait de se débarrasser des rats du comte. J'ai donc décidé que Barlow, mon équivalent du comte Dracula, enrôlerait aussi les rats à son service. Et pour ce faire, j'ai doté la bonne ville de Jerusalem's Lot d'une immense décharge publique peuplée de rats. J'ai joué sur leur présence à plusieurs reprises durant les 200 premières pages du roman, et je reçois encore aujourd'hui des lettres de lecteurs intrigués me demandant si je les ai tout simplement oubliés, s'ils ne m'ont servi qu'à créer une atmosphère ou que sais-je encore. En fait, je les ai utilisés pour écrire une scène si répugnante que mon directeur littéraire de l'époque, le même Bill Thompson qui apparaît dans l'avant-propos de ce livre, m'a vivement conseillé de la supprimer pour la remplacer par une autre. Après avoir râlé pour la forme, j'ai exaucé son souhait. Si bien que dans Salem, tel qu'il est sorti en librairie, Jimmy Cody, le médecin de la ville, et Mark Petrie, le jeune garçon qui l'accompagne, découvrent que l'empereur des vampires, pour reprendre le titre ronflant que lui donne Stoker, s'est presque certainement terré dans la cave d'une pension de famille. Jimmy descend donc au sous-sol de ladite pension, mais les marches de l'escalier ont été sciées et le sol criblé de couteaux au fil acéré. Jimmy Cody périt empalé lors d'une scène que j'estime relever de l'horreur, plutôt que de la terreur ou de la révulsion. Bref, le juste milieu. Mais dans la première version du manuscrit, Jimmy arrivait indemne au pied des marches et découvrait, trop tard, que Barlow avait fait venir dans la cave de la pension d'Eva Miller tous les rats de la décharge. Suit alors un véritable banquet dont Jimmy Cody est le plat de résistance. Les rats attaquent par centaines, et le lecteur se voit alors offrir, si je peux dire, le spectacle du bon docteur rampant sur les marches sous une masse de rongeurs. Il se faufile sous sa chemise, grouille dans ses cheveux, le mord au cou et au bras. Lorsqu'il ouvre la bouche pour lancer un avertissement à Mark, un rat se précipite dans son palais et s'y niche douillettement, sans cesser de gigoter. J'étais enchanté de cette scène, car elle me permettait de rendre simultanément hommage à Dracula et au EC Comics. Malheureusement, mon directeur littéraire a estimé que j'allais trop loin et j'ai fini par en convenir. Peut-être même qu'il avait raison. Je me suis efforcé de souligner certaines des différences entre la science-fiction et l'horreur, la science-fiction et le fantastique, la terreur et l'horreur et la révulsion, en faisant appel à des exemples plutôt qu'à des définitions. Ce qui est fort bien. Mais peut-être devrions-nous examiner un peu plus en détail cette émotion qu'est l'horreur, en nous intéressant à ses effets plutôt qu'à la définition qu'on peut en donner. Que fait l'horreur ? Pourquoi les gens ont-ils envie d'être horrifiés ? Pourquoi payent-ils pour être horrifiés ? Pourquoi existe-t-il des films comme L'Exorciste, ou Les Dents de la Mer, ou encore Alien ? Mais avant de nous demander pourquoi notre prochain recherche avidement cette sensation, peut-être devrions-nous réfléchir un moment aux éléments de ladite sensation. Et même si nous choisissons de ne pas définir l'horreur, nous pouvons au moins examiner les éléments qui la composent, ce qui nous permettra peut-être de tirer quelques conclusions. 2. Les romans et les films d'horreur ont toujours joui d'une certaine popularité. Mais cette popularité semble atteindre des sommets tous les 20 ou 30 ans environ. Ces périodes de succès correspondent apparemment à des périodes de crise politique et ou économique, et les livres et les films semblent refléter l'angoisse diffuse, faute d'un terme plus approprié, qui accompagne ces troubles sérieux, quoique pas tout à fait mortels. L'horreur a connu un boom durant les années 1930. Lorsque les victimes de la dépression ne faisaient pas la queue devant le guichet du cinéma local pour voir la dernière production de Busby Berkeley, où plusieurs centaines de girls dansaient sur des chansons comme « We're in the money », peut-être se défoulaient-elles d'une autre façon, en regardant Boris Karloff errer dans la lande comme une âme en peine dans Frankenstein, ou Bela Lugosi s'avancer furtivement dans les ténèbres en levant sa cape dans Dracula. Les années 1930 virent également le succès de ce qu'on appelait les « shudder pulps », toute la gamme des frissons de Weird Tales à Black Mask. Rares sont les romans et les films d'horreur d'une quelconque importance datant des années 1940. Et le seul grand magazine fantastique de la décennie, Unknown, ne survécut pas très longtemps. Les grands monstres créés par Universal durant la Dépression, le monstre de Frankenstein, le loup-garou, la momie et le comte, avaient alors à souffrir du type d'agonie douloureuse et embarrassante que le cinéma semble réserver aux malades incurables. Au lieu de leur accorder une retraite honorable et de les enterrer décemment dans le sol moisi de leurs cimetières européens, Hollywood décida d'en tirer des effets comiques, exploitant les pauvres créatures jusqu'à la moelle avant de les laisser mourir de leur belle mort. Si bien qu'Abbott et Costello, ces deux nigauds, ont rencontré les monstres, ainsi que les Bowery Boys et ces adorables gaffeurs que sont les Three Stooges. Et les monstres eux-mêmes sont devenus des clowns. Plusieurs années plus tard, après une autre guerre, Mel Brooks devait nous donner Frankenstein Jr., Gene Wilder et Marty Feldman se substituant à Bud Abbott et à Lou Costello. L'éclipse de la littérature d'horreur qui a débuté en 1940 a duré 25 ans. Certes, on pouvait lire de temps en temps un roman exceptionnel, tel « L'homme qui rétrécit » de Richard Matheson et « La rive incertaine » de William Sloan, qui nous rappelait que le genre était toujours vivant. Bien que le livre de Matheson ait été étiqueté science-fiction, alors que cette lutte d'un homme contre une araignée géante relève bel et bien de l'horreur. Mais l'idée même d'un best-seller d'horreur aurait fait éclater de rire le monde de l'édition dans son ensemble. Tout comme au cinéma, l'âge d'or de la littérature du bizarre avait pris fin durant les années 1930, une époque où Weird Tales était à l'apogée de son influence et de sa qualité, sans parler de ses tirages, et publiait les œuvres de Clark Ashton Smith, du jeune Robert Bloch, du docteur David H. Keller, et bien entendu, celle de H.P. Lovecraft, le prince sombre et baroque de l'horreur du XXe siècle. Ce serait faire injure aux amateurs de longue date que de suggérer que l'horreur a disparu durant les années 1940. Loin de moi cette idée. Arkham House venait d'être fondé par Feu Auguste Derleth, et cette maison d'édition a publié ce que je considère comme ses ouvrages les plus importants durant la période 1939-1950. Des recueils de nouvelles, tels que « The Outsider » et « Beyond the Wall of Sleep » de H.P. Lovecraft, « Jumbi » de Henry S. Whitehead, « The Opener of the Way » et « Pleasant Dreams » de Robert Bloch et « Dark Carnival » de Ray Bradbury. Un florilège merveilleux et terrifiant venu d'un monde de ténèbres situé au-delà du seuil de celui-ci. Mais Lovecraft était mort bien avant Pearl Harbor. Bradbury commençait à se tourner vers un mélange lyrique de fantastique et de science-fiction, et c'est seulement quand il a adopté cette direction que lui ont été ouvertes les portes de magazines prestigieux comme Collier's et The Saturday Evening Post. Robert Bloch commençait à se consacrer au suspense, utilisant l'expérience acquise durant ses 20 années de carrière pour écrire une série de romans hors du commun que surpassent seulement ceux de William Irish. Durant les années qui précédèrent et suivirent la guerre, l'horreur était en plein déclin. L'époque ne s'y prêtait pas. C'était une époque de rationalisme et de progrès scientifique, deux phénomènes qui s'accommodent fort bien d'une atmosphère belliqueuse, merci pour eux, que les tenants du genre s'accordent aujourd'hui pour appeler l'âge d'or de la science-fiction. Pendant que Weird Tales battait de l'aile, tenant le coup avec courage mais perdant régulièrement des lecteurs, la mort viendrait pour elle en 1954, après qu'un changement de format se fût révélé impuissant à redresser des ventes défaillantes, le marché de la SF était en pleine expansion, donnant naissance à une douzaine de magazines dont le souvenir perdure jusqu'à aujourd'hui en faisant d'écrivains tels que Heinlein, Asimov, Campbell et Del Rey sinon des vedettes de l'édition, du moins les idoles d'une vaste communauté de fans, tous farouches partisans des fusées lunaires, des stations spatiales et de ce cher vieux rayon de la mort. Ainsi donc, L'horreur s'est languie dans les oubliettes jusqu'en 1955 environ, agitant parfois ses chaînes, mais échouant à séduire les foules. C'est à peu près à ce moment-là que deux hommes nommés Samuel Z. Harkoff et James H. Nicholson sont descendus faire un tour dans les oubliettes et ayant découvert une machine à faire de l'argent que l'on laissait jusque-là rouillée en paix. Harkoff et Nicholson étaient à l'origine distributeurs de films et ayant constaté la pénurie de séries B au début des années 1950, ils décidèrent de produire les leurs. Les gens bien informés leur ont aussitôt prédit une ruine imminente. Ils allaient s'embarquer dans un navire faisant eau de toutes parts. Cette époque était celle de la télé. Les gens bien informés avaient eu un aperçu de l'avenir, et l'avenir appartenait à des personnages comme Dagmar et Richard Diamond, détectives privés. Parmi les personnes qui se souciaient de leur sort, et elles étaient rares, c'était l'unanimité. Harkoff et Nicholson couraient à la catastrophe. Mais durant les 25 ans d'existence de leur compagnie, American International Pictures, Harkoff préside désormais seul à ses destinées, Nicholson étant décédé il y a plusieurs années, ce fut la seule firme cinématographique américaine d'importance à présenter tous les ans un exercice comptable positif. AIP a produit des films de tous les genres, mais chaque fois en ciblant un public jeune. À son répertoire figurent des classiques douteux comme Bertha Boxcar, Bloody Mama, Drag Strip Girl, The Trip, Dillinger et l'immortel Beach Blanket Bingo. Mais leurs plus gros succès furent des films d'horreur. Quels sont les éléments qui font des films d'AIP des classiques ringards? Ils sont simplistes, tournés à la va-vite, avec un amateurisme si flagrant qu'on aperçoit souvent sur l'écran l'ombre d'un micro ou une bouteille d'oxygène sous le costume d'un monstre aquatique, comme dans l'attaque des sangsues géantes. Harkoff lui-même se souvient que le tournage commençait souvent sans le bénéfice d'un scénario achevé, voire d'un synopsis cohérent. Le feu vert était fréquemment donné à la seule vue d'un titre potentiellement commercial, comme Terror from the Year 5000, ou Les Mangeurs de cerveau, un titre qui donnerait naissance à une affiche accrocheuse. Néanmoins, quels que fussent ces éléments, ils étaient efficaces. 3. Mais changeons de sujet quelques instants. Parlons un peu des monstres. Qu'est-ce exactement qu'un monstre? Commençons par supposer que le conte de terreur, si primitif soit-il, est de par sa nature même une œuvre allégorique, symbolique. Supposons que, tel un patient sur le divan du psychanalyste, il nous parle d'une chose tout en voulant en exprimer une autre. Je ne veux pas dire que l'horreur est consciemment allégorique ou symbolique. Ce serait supposer l'existence chez la majorité des écrivains et des cinéastes d'horreur d'une ambition à laquelle ils n'aspirent guère. En 1979, un cinéma de New York a proposé à son public une rétrospective des films produits par AIP. Et qui dit rétrospective dit art, mais ces films relèvent au mieux de l'art brut. Leur intérêt nostalgique est indéniable, mais ils risquent de salement décevoir les amateurs de culture. Il est absurde de suggérer que Roger Corman faisait inconsciemment œuvre artistique en troussant des films en 4 jours avec un budget de $10 000. Si l'élément allégorique est là, c'est parce qu'il est inné, donné, inévitable. Si l'horreur nous séduit, c'est parce qu'elle nous dit, de façon symbolique, des choses que nous aurions peur de dire à haute voix. Elle nous donne l'occasion d'exercer, j'ai bien dit exercer et non exorciser, des émotions que la société nous demande de brider. Le film d'horreur nous invite à adopter par procuration un comportement déviant, antisocial, à commettre des actes de violence gratuite, à satisfaire nos désirs infantiles de puissance, à succomber à nos peurs les plus abjectes. Et, ce qui est peut-être le plus important, le film et le récit d'horreur nous déclarent que nous avons le droit de rejoindre la foule, de redevenir un être tribal, de détruire l'étranger. Le meilleur exemple, et le plus littéral, de ce phénomène, se trouve dans la nouvelle de Shirley Jackson intitulée « La loterie », où le concept d'étrangeté se manifeste sous la seule forme d'un cercle noir dessiné sur un bout de papier. Mais il n'y a rien de symbolique dans la grêle de pierre qui conclut ce récit. Alors que sa propre fille lance à son tour un caillou, l'héroïne meurt en s'écriant « C'est pas juste! C'est pas juste !» Et ce n'est pas par accident que la plupart des histoires d'horreur s'achèvent par un retournement de situation à la O. Henry, qui débouche droit sur l'abîme. Quand nous nous tournons vers un film ou un roman à faire peur, ce n'est pas pour nous entendre dire « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Nous attendons une révélation qui ne nous surprend guère. Tout va mal. Dans la plupart des cas, l'histoire d'horreur nous le prouve sans l'ombre d'un doute. Et je ne pense pas que nous ayons été surpris de voir Catherine Ross tomber dans le piège qui lui était tendu à la fin des Femmes de Stepford, ni de voir le noir héroïque se faire descendre par les hommes du shérif débile à la fin de La Nuit des Morts-Vivants. Ça fait partie du jeu, comme on dit. Et la monstruosité, c'est aussi une partie du jeu. Que pouvons-nous en dire? Si nous ne souhaitons pas la définir, pouvons-nous au moins en trouver des exemples? Voilà un sujet explosif, mes amis. Prenons les phénomènes de foire, ces aberrations de fêtes foraines que l'on peut examiner à la lueur d'ampoules de 100 watts. Vous rappelez-vous Cheng et Eng, les célèbres frères siamois? À l'époque de leur célébrité, la majorité des gens les considéraient comme des êtres monstrueux. Et le fait que tous deux aient eu une vie conjugale n'arrangeait pas les choses. Le dessinateur humoristique le plus mordant, et parfois le plus drôle d'Amérique, un type du nom de Rodriguez, a exploité le thème des frères siamois dans une bande dessinée intitulée « The Aesop Brothers » et publiée par The National Lampoon. Il nous y expose sans pudeur toutes les bizarreries de l'existence chez les êtres joints par la chair. Leur vie sexuelle, leur toilette, leur vie amoureuse, leur maladie. Rodriguez vous apprend tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les frères siamois et confirme vos pires craintes. Il n'est pas inexact de crier au mauvais goût, mais ce genre de critique demeure futile et sans effet. À ses débuts, The National Enquirer publiait des photos de victimes d'accidents de voiture et de chiens mâchant paisiblement des têtes tranchées. Mais ce journal à sensation a connu des ventes phénoménales avant de décider d'édulcorer quelque peu son contenu. Et les autres phénomènes? Peut-on les classer dans la catégorie des monstruosités? Les nains? La femme à barbe? La femme la plus grosse du monde? L'homme squelette? À un moment donné de notre vie, nous nous sommes tous retrouvés là, dans le champ de foire, un hot-dog ou une barbe à papa à la main, pendant que l'aboyeur nous servait son boniment, en général flanqué d'une de ces erreurs de la nature destinées à illustrer son propos. La femme la plus grosse du monde dans son petit tutu rose, l'homme tatoué avec autour du cou un dragon évoquant une fabuleuse corde de chanvre, ou l'homme qui dévore des clous, des ampoules et des bouts de métal. Peut-être ne sommes-nous que quelques-uns à avoir payé notre ticket pour aller les voir de plus près, ainsi que d'autres spécimens comme la vache à deux têtes ou le bébé dans la bouteille. J'écris des histoires d'horreur depuis l'âge de 8 ans. Pourtant, je ne suis jamais entré dans ce type d'attraction foraine. Mais la plupart d'entre nous en ont sûrement eu envie. Et dans certaines foires, le monstre le plus terrible de tous est relégué dans une fosse, au fond de la tente, dans le coin le plus sombre, comme s'il s'agissait d'un damné venu du 9e cercle de l'enfer, et une loi datant de 1910 lui interdit expressément de faire son numéro. On l'appelle le geek. Et si vous êtes prêt à payer un supplément d'$1, vous le verrez arracher d'un coup de dent la tête d'un poulet encore vivant, et l'avaler alors même que le volatile décapité tressaille encore dans ses mains. Les phénomènes de foire sont en même temps si séduisants et si répugnants que le seul film d'horreur à avoir tenté d'utiliser leur potentiel est devenu un film maudit. Il s'agit de Freaks, la monstrueuse parade, que Todd Browning a réalisé en 1932 pour le compte de la MGM. Freaks raconte l'histoire de Cléopâtre, la belle acrobate de cirque qui épouse un nain. Dans la meilleure tradition des EC Comics, lesquels ne seraient créés que 20 ans plus tard, elle a un cœur aussi noir qu'une mine de charbon à minuit. Ce n'est pas le nain qui l'intéresse, c'est sa fortune. À l'instar de ces veuves noires qui devaient grouiller dans les futures BD d'horreur, Cléo se trouve bientôt un autre homme. Il s'agit ici d'Hercule, Hercule de foire de son état, comme son nom l'indique. Hercule est à peu près aussi recommandable que Cléopâtre, et notre sympathie est acquise au phénomène de foire. Nos deux scélérats entreprennent bientôt d'empoisonner le mari de Cléopâtre. Les autres phénomènes s'en rendent compte et exercent sur le couple maudit une vengeance quasiment indicible. Hercule est tué. À en croire une rumeur persistante, il était castré dans la première version du scénario, et la belle Cléopâtre est transformée en femme oiseau, avec des plumes sur le corps et une paire de jambes en moins. Browning a commis l'erreur d'engager comme acteur d'authentiques phénomènes de foire. Peut-être ne supportons-nous un film d'horreur que parce que nous apercevons de temps en temps une fermeture à glissière sur le costume du monstre, parce que nous comprenons que nous avons affaire à une illusion. La dernière scène de Freaks, où on voit l'homme tronc, l'homme sans bras et les sœurs Hilton, des siamoises, courir et ramper à la poursuite de Cléopâtre, est tout bonnement insoutenable. Même certains des exploitants salariés par la MGM ont refusé de projeter le film. Et Carlos Clarins rapporte dans son livre « Illustrated History of the Horror Film » que lors d'une avant-première à San Diego, une femme est sortie du cinéma en hurlant. Le film a fini par être montré, pourrait-on dire, dans une version si sévèrement tronquée qu'un critique a protesté qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il avait pu voir. Clarins souligne en outre que ce film a été interdit pendant 30 ans au Royaume-Uni, un pays qui a offert au monde, entre autres joyeusetés, Johnny Rotten, Sid Vicious, The Snivelling Shit et la ratonnade de Pakistanais. Freaks est parfois diffusé sur les chaînes de télévision payantes. Et peut-être même est-il, à l'heure où j'écris ces lignes, disponible en vidéocassette. Mais aujourd'hui encore, il demeure une source de discussions passionnées, de commentaires et de conjectures parmi les fans d'horreur, et bien que nombre de ceux-ci en aient entendu parler, rares sont ceux qui l'ont effectivement vu. 4. En laissant de côté les phénomènes de foire, quelles créatures considérons-nous comme assez horribles pour leur infliger ce qui est sans doute le plus ancien des adjectifs péjoratifs? Eh bien, nous pourrions mentionner les criminels bizarres qui affrontent Dick Tracy, dont le plus surprenant est sans doute Flyface, ainsi que le scorpion, l'adversaire numéro 1 de Don Winslow, dont le visage était si horrible qu'il devait le dissimuler en permanence. Il lui arrivait cependant parfois de le dévoiler quand un de ses complices avait commis une bourde ou une autre. Le dit complice tombait alors raide mort, littéralement mort de peur. Pour autant que je le sache, on n'a jamais découvert, gag, l'horrible secret de la physionomie du scorpion. Mais l'intrépide Don Winslow a réussi un jour à démasquer la fille du scorpion, qui était dotée du visage mort et flasque d'un cadavre. Le lecteur captivé recevait d'ailleurs cette information en italique, le visage mort et flasque d'un cadavre, afin qu'il l'assimile comme elle le méritait. Les meilleurs représentants de la nouvelle génération des monstres de BD se trouvent sans doute parmi ceux créés par Stan Lee pour les Marvel Comics, où, pour chaque super-héros, comme Spider-Man et Captain America, on trouve une douzaine d'aberrations monstrueuses. Le Docteur Octopus, connu de millions d'enfants sous l'affectueux surnom de Doc Ock, dont les bras ont été remplacés par des bouquets meurtriers de tuyaux d'aspirateur. L'homme sable, qui ressemble grosso modo à une dune douée de mobilité. Le vautour, Stégrone, le lézard. Et, le plus redoutable d'entre tous, le docteur Fatalis, qui a été si affecté par sa quête perverse de connaissances interdites qu'il est devenu une sorte de cyborg cliquetant, pourvu d'une cape verte, de deux meurtrières médiévales devant les yeux et d'une armure qui semble transpirer des rivets. Les super-héros dont l'anatomie présente des éléments monstrueux semblent beaucoup moins durables. Mon préféré, Plastic Man, qui était toujours accompagné d'un comparse loufoque et grassouillet, Woozy Winks, n'a jamais vraiment connu le succès. Reed Richards, le chef des quatre fantastiques, est un sosie de Plastic Man. Et son compagnon Ben Grimm, alias La Chose, ressemble à un flot de lave pétrifié. Mais ils font partie des exceptions qui confirment la règle. Jusqu'ici, nous avons évoqué les phénomènes de foire et les caricatures que nous trouvons parfois dans les BD. Mais tournons-nous à présent vers la vie quotidienne. Quel genre de personnes considérez-vous comme vraiment monstrueuses parmi celles que vous croisez chaque jour? Vous êtes dispensé de cette question si vous êtes médecin ou infirmière. Ce type de professionnel a une longue habitude des aberrations physiques. Et on peut en dire autant des policiers et des barmans. Mais quid du reste d'entre nous? Prenez les gros. Combien de kilos doit peser un homme ou une femme avant de pénétrer dans un domaine où les perversions de la forme humaine sont suffisamment graves pour être qualifiées de monstruosité? On ne peut certes pas ranger dans cette catégorie les personnes qui s'habillent au rayon grande taille des magasins de vêtements, n'est-ce pas? Un obèse devient-il monstrueux lorsqu'il lui est impossible d'entrer dans un cinéma ou une salle de concert parce que ses fesses sont trop larges pour se loger entre les deux accoudoirs d'un siège? Comprenez bien que je ne souhaite pas ici remettre en question le droit d'avoir des kilos en trop, d'un point de vue médical ou esthétique. Je ne critique pas cette dame que vous avez aperçue un jour d'été en train de lever son courrier, son gigantesque postérieur boudiné dans un pantalon noir, sa chair agitée de tremblements, son ventre dépassant tel un sac de farine sous les pans de son chemisier. Je veux parler d'un point où la simple obésité a dépassé les dernières frontières admises de la normalité pour devenir un phénomène qui, en dehors de toute considération morale, attire inévitablement les regards. Quelles peuvent être vos réactions, ou les miennes, devant un être humain si énorme qu'on ne peut s'empêcher de se demander comment il accomplit des actes qui nous paraissent aller de soi? Passer une porte, s'asseoir dans une voiture, entrer dans une cabine téléphonique, se pencher pour lacer des souliers, prendre une douche. Vous allez me dire, Steve, on est reparti chez les phénomènes de foire. La femme la plus grosse du monde dans son tutu rose, ou encore ses jumeaux immortalisés par le livre Guinness des records, où une photo les montrait de dos, juchés sur des petits scooters, leurs fesses flottant dans les airs comme un rêve d'apesanteur. Mais le fait est que je ne veux pas parler de ces gens-là, qui existent après tout dans un monde où une autre échelle est imposée au concept de normalité. Un homme pesant 250 kilos peut-il se sentir monstrueux en compagnie de l'homme tronc ou des frères siamois? La normalité est un concept sociologique. Ce qui me rappelle une vieille histoire drôle. Deux chefs d'État africains regagnent leur pays à l'issue d'une visite officielle en Amérique, où ils ont rencontré le président des États-Unis. « Kennedy !» s'émerveille l'un d'eux. « Quel drôle de nom !» Dans le même registre, il y a l'épisode de la quatrième dimension intitulé « L'œil de l'admirateur », dont l'héroïne est une femme extraordinairement laide, dont la énième opération de chirurgie esthétique vient hélas d'échouer. Et ce n'est qu'à la fin de l'épisode que nous apprenons qu'elle vit dans un futur où tout le monde ressemble à une sorte de cochon humanoïde. Selon nos critères, cette femme laide est d'une beauté à couper le souffle. Non, je veux parler de l'obèse dans notre société. L'homme d'affaires pesant 200 kilos, par exemple, qui a l'habitude de réserver deux sièges quand il prend l'avion et de relever l'accoudoir qui les sépare avant d'y prendre place. Je veux parler de la femme qui se fait cuire 4 hamburgers pour déjeuner, les mange avec 8 tranches de pain, poursuit son repas avec une salade de pommes de terre assaisonnée à la crème fraîche, et le conclut par une tarte aux pommes recouverte d'une épaisse couche de crème chantilly. En 1976, alors que je m'étais rendu à New York pour affaires, j'ai vu un homme corpulent pris au piège dans la porte tournante de la librairie Doubleday sur la 5e avenue. Gigantesque et suant dans son costume bleu, il ressemblait à une masse de gélatine que l'on aurait versée entre deux battants. Le vigile de la librairie et le policier qui était venu lui prêter main forte durent batailler un long moment avec la porte avant de parvenir à la débloquer. Finalement, le gentleman put être dégagé. Je me suis demandé alors, et je me demande encore, si les badauds qui s'étaient rassemblés pour observer ce sauvetage étaient différents de ceux qui se massent devant l'aboyeur de foire quand il entame son boniment, ou des spectateurs qui se ruaient jadis dans les salles de cinéma pour voir le monstre de Frankenstein se lever lentement et faire ses premiers pas dans le laboratoire de son créateur. Les gros sont-ils monstrueux? Et que dire des personnes affligées d'un bec de lièvre ou d'une tache de vin sur le visage? Jamais une foire digne de ce nom n'accepterait de les exhiber. Désolé, c'est trop banal. Et les personnes dotées de 6 doigts à une main, ou aux 2, ou encore de 3 orteils à chaque pied? Elles sont loin d'être aussi rares que vous le croyez. Ou encore, pour se rapprocher un peu plus de chez vous, que dire d'une personne affligée d'acné? Bien entendu, les points noirs ordinaires n'ont aucun caractère de gravité. Même la plus mignonne des pom-pom girls est susceptible d'en attraper un sur le front ou à la commissure de ses lèvres charmantes. Mais la surcharge pondérale n'a pas non plus de caractère de gravité. Je veux parler d'une acné ayant atteint un développement considérable, d'un visage ressemblant à celui d'une créature dans un film d'horreur japonais, des comédons par milliers, rouges et suppurants pour la plupart. Tout comme la scène d'expectoration d'Alien, il y a de quoi vous dégoûter du pop-corn. Sauf que c'est pour de vrai. Peut-être n'ai-je pas encore touché du doigt l'idée que vous vous faites de la monstruosité. Et peut-être que je n'y arriverai pas. Mais considérez un instant le cas pourtant bien ordinaire des gauchers. Bien entendu, la discrimination à l'égard des gauchers est un phénomène évident. Si vous avez fréquenté un collège ou un lycée américain doté de bureaux de type moderne, vous savez déjà que la plupart d'entre eux sont conçus pour un monde exclusivement peuplé de droitiers. La plupart des établissements scolaires s'équipent pour la forme de quelques bureaux pour gauchers, mais c'est à peu près tout. Et durant les interrogations écrites et les examens, les gauchers sont généralement parqués dans un coin de la salle, afin qu'ils ne donnent pas de coup de coude à leurs condisciples dits « normaux ». Cela va plus loin qu'une simple discrimination. La discrimination a de profondes racines, mais celles de la monstruosité sont plus profondes encore. Dans l'univers du baseball, les joueurs gauchers sont considérés comme un peu dingues, même lorsque tel n'est pas le cas. En vieux français, gauche se dit senestre. C'est de là que l'adjectif sinistre tire son origine. Si l'on en croit à une ancienne superstition, votre moitié droite appartient à Dieu et la gauche à son adversaire. Les gauchers ont toujours été suspects. Ma mère était gauchère. Et elle m'a raconté que lorsqu'elle était écolière, l'institutrice avait l'habitude de lui donner un coup de règle sur la main gauche pour qu'elle change de main quand elle écrivait. Elle s'empressait de reprendre son stylo de la main gauche dès que sa tortionnaire avait le dos tourné, car sa main droite n'était capable de produire que des gribouillis. Ce qui est le cas de la plupart d'entre nous lorsque nous essayons d'écrire avec ce que les habitants de la Nouvelle-Angleterre appellent la main stupide. Quelques êtres d'exception, tels Branwell Bronte, le frère si doué de Charlotte et d'Émilie, peuvent écrire indifféremment des deux mains. En fait, Branwell Bronte était si ambidextre qu'il arrivait à écrire en même temps 2 lettres destinées à 2 personnes différentes. On peut raisonnablement se demander si une telle aptitude tient de la monstruosité ou du génie. En fait, toutes les aberrations humaines, physiques ou mentales, ont été à un moment ou à un autre de l'histoire, voire encore aujourd'hui, considérées comme monstrueuses. Une liste complète comprendrait la pointe de cheveux sur le front, jadis tenue pour le signe distinctif d'un sorcier, les grains de beauté du corps féminin, des tétons de sorcière, et la schizophrénie terminale, qui a parfois valu aux personnes ainsi affligées d'être canonisées par telle ou telle église. Si la monstruosité nous fascine, c'est parce qu'elle séduit le conservateur en costume trois pièces qui sommeille en chacun de nous. Si nous aimons tant le concept de monstruosité, si nous en avons tellement besoin, c'est parce qu'il réaffirme l'idée d'ordre qui nous est si nécessaire. Et permettez-moi en outre de suggérer que ce n'est pas l'aberration mentale ou physique qui nous horrifie, mais plutôt l'absence d'ordre qu'elle semble impliquer. Le regretté John Wyndham, qui est sans doute le meilleur écrivain de science-fiction que l'Angleterre ait jamais produit, a tiré le meilleur parti de cette idée dans son roman « Les Chrysalides », également connu sous le titre « Les Transformés ». À mon humble avis, jamais on n'a écrit depuis la Seconde Guerre mondiale une variation plus brillante sur l'idée de mutation et de déviation. Dans la maison du jeune protagoniste se trouve une série d'écriteaux couverts de préceptes rigoureux. Seul l'homme est l'image de Dieu. Le troupeau de Dieu doit rester pur. Le salut est dans la pureté. Béni soit la norme. Et le plus révélateur d'entre eux. Prends garde aux mutants. Après tout, en parlant de monstruosité, nous exprimons notre foi et notre croyance en la norme et nous prenons garde aux mutants. L'écrivain d'horreur n'est ni plus ni moins qu'un agent du statu quo. 5. Ceci posé, revenons au film produit par American International Pictures durant les années 1950. Dans quelque temps, nous évoquerons leur qualité allégorique. Vous, là, dans le fond, arrêtez de rire ou je vous expulse du cours. Mais concentrons-nous pour l'instant sur l'idée de monstruosité. Et si nous abordons le sujet de l'allégorie, ce ne sera que de façon superficielle, en suggérant ce que ces films ne sont pas. Bien qu'ils soient sortis à l'époque où le rock'n'roll pulvérisait les barrières raciales, et bien qu'ils aient visé le même public adolescent, il est intéressant de souligner les éléments qui sont absents de ces films, du moins en termes de monstruosité authentique. Nous avons déjà remarqué que les films d'AIP, ainsi que ceux des autres firmes indépendantes qui ont imité AIP, ont nettement revigoré l'industrie cinématographique durant cette période creuse que furent les années 1950. Grâce à eux, plusieurs millions de jeunes spectateurs ont trouvé dans les salles obscures la provende que leur refusait la télé. Et ils disposaient en plus d'un endroit accueillant où ils pouvaient se ploter en paix. Et ce sont les Indies, comme les appelle le magazine Variety, qui ont donné à toute une génération d'enfants de la guerre la passion du cinéma, préparant peut-être le succès de films aussi disparates que Easy Rider, Les Dents de la Mer, Rocky, Le Parrain et L'Exorciste. Mais où sont les monstres? Oh, nous avons des faux monstres par douzaines. Des hommes sous coupe, des sangsues géantes, des loups-garous, des hommes taupes, dans un film Universal, et bien d'autres encore. Mais tout en s'engageant hardiment dans cet océan inconnu et riche de possibilités, AIP s'abstint de montrer ce qui ressemblait à de la véritable horreur, du moins dans l'acception émotionnelle que les enfants de la guerre avaient de ce terme. C'est là une précision importante, et j'espère que vous conviendrez avec moi qu'elle méritait d'être mise en italique. Ils étaient, nous étions, des enfants connaissant parfaitement la détresse psychique engendrée par la bombe, mais n'ayant jamais vraiment fait l'expérience du manque ou de la privation. Aucun des jeunes spectateurs de l'époque ne souffrait de malnutrition ou d'infection parasitaire. Quelques-uns avaient perdu un père ou un oncle à la guerre, pas beaucoup. Et dans les films eux-mêmes, on ne trouvait aucun gros lard, aucun gamin affligé de tics, aucune victime de l'acné, aucun gamin ayant l'habitude de se curer le nez puis d'essuyer son doigt sur le pare-brise de la voiture. Aucun gamin souffrant de problèmes sexuels. Aucun gamin affligé d'une difformité visible. Même pas un handicap aussi banal qu'une mauvaise vue nécessitant le port de lunettes. Tous les jeunes héros des films d'AIP, films d'horreur ou films de distraction, avaient 10-10 à chaque œil. Peut-être apercevait-on parfois un ado un peu louche, du genre de ceux qu'interprétait Nick Adams, qui était un peu plus petit que les autres, ou avait l'audace de retourner sa casquette sur sa tête à l'instar d'un joueur de baseball, et que l'on surnommait affectueusement « weirdo »,« scooter » ou « crazy ». Mais ça n'allait jamais plus loin. Le lieu de l'action était toujours une petite ville américaine typique, le contexte le plus aisément identifié par le public. Mais toutes ces versions de notre ville semblaient avoir reçu la visite d'un commando d'eugéniste la veille du début du tournage, et on en avait éliminé tous les citoyens souffrant d'un cheveu sur la langue, d'une tache de vin, d'une patte folle ou d'un ventre proéminent. Bref, tous ceux qui ne ressemblaient pas à Frankie Avalon, Annette Funicello, Robert Young et Jane Wyatt. Certes, Elisha Cook Jr., qui apparaissait dans nombre de ses films, avait toujours eu l'air un peu bizarre. Mais comme il se faisait invariablement tuer durant la première bobine, il ne compte pas. Bien que le rock'n'roll et les films de jeunes, des griffes du loup-garou à la fureur de vivre, aient simultanément choqué la génération précédente, qui commençait à se remettre de sa guerre et se préparait à la transformer en mythe, offrant à ses représentants une surprise aussi déplaisante qu'un voyou leur tombant dessus au coin d'une rue, musique et cinéma n'étaient que les signes avant-coureurs d'un authentique séisme à venir. Little Richard était bel et bien un personnage dérangeant. Et Michael Landon, qui respectait si peu son lycée qu'il ne se donnait même pas la peine d'ôter le t-shirt portant son emblème avant de se métamorphoser en homme-loup, l'était tout autant. Mais on était encore loin du fish cheer de Woodstock et des démonstrations de chirurgie amateur de Massacre à la tronçonneuse. Durant les années 1950, tous les parents tremblaient devant le spectre de la délinquance juvénile. L'adolescent un peu vulgaire du mythe, adossé à la porte de l'épicerie de notre ville, les cheveux luisants de Vitalis ou de Brill Cream, un paquet de Lucky Strike glissé sous l'épaulette de son blouson noir, un comédon tout frais à la commissure de ses lèvres et un cran d'arrêt tout neuf dans la poche revolver de son blue jean, dans l'attente d'un gosse à tabasser, d'un parent à harceler, d'une jeune fille à agresser, ou peut-être d'un chien à violer et à tuer, ou vice-versa. Cette image, jadis chargée de terreur, a subi au fil des ans un processus de mythification et d'homogénéisation. Prenez James Dean ou Vic Morrow. Attendez une vingtaine d'années, et hop, voilà Arthur Fonzarelli. Mais à l'époque, les journaux et les revues populaires voyaient des délinquants juvéniles partout, tout comme ses représentants du quatrième pouvoir avaient vu des communistes partout quelques années plus tôt. Leurs Santiago et leurs Levi's hantaient les rues d'Oakdale, de Pineview et de Centerville. Et celles de Mandamian, Iowa, et de Lewiston, Maine. Et l'ombre du redoutable délinquant juvénile était longue, longue. Marlon Brando avait été le premier à donner une voix à ce nihiliste à la tête vide dans un film intitulé « L'équipée sauvage ». « Mais contre quoi te rebelles-tu » lui demande la jolie jeune femme. Réponse de Marlon. « Qu'est-ce que t'as à me proposer ?» Pour les braves gens d'Asher Heights, Caroline du Nord, qui avaient survécu à 41 missions au-dessus de l'Allemagne dans le ventre d'un bombardier et qui ne souhaitaient plus à présent que vendre plein de buick à boîte automatique, c'était vraiment une tuile. Ce type-là se fichait complètement des sociétés de bienfaisance et des clubs d'anciens combattants. Mais tout comme il s'était avéré que les communistes et les agents de la cinquième colonne étaient bien moins nombreux qu'on ne le croyait, la sinistre menace du délinquant juvénile devait se révéler quelque peu exagérée. En dernière analyse, les enfants de la guerre voulaient les mêmes choses que leurs parents. Ils voulaient un permis de conduire, un boulot en ville et une maison en banlieue, un mari ou une femme, une bonne assurance, un bon déodorant pour les aisselles, des enfants, des remboursements de crédit qui ne risquaient pas de les ruiner, des rues propres, des consciences propres. Ils voulaient être sages. Plusieurs dizaines d'années et plusieurs centaines de kilomètres séparaient le Senior Glee Club et la SLA, notre ville et le delta du Mékong. Et le seul exemple de guitare au son distordu de l'industrie du disque résultait d'une erreur technique dans un album de country music de Marty Robbins. Les jeunes suivaient bien sagement le code vestimentaire de leur école. Les roues flaquettes étaient des objets de dérision dans la plupart des lycées, et un mec surpris à porter des semelles compensées ou un maillot un peu trop moulant se serait fait traiter de tantouse. Eddie Cochran pouvait bien chanter « Those crazy pink pegged slacks », même si les gamins achetaient ses disques, ils se gardaient bien de porter le pantalon rose en question. Pour les enfants de la guerre, la norme était bénie. Ils voulaient être sages. Ils prenaient garde aux mutants. Dans les premiers films d'horreur pour jeunes des années 1950, on ne se permettait qu'une aberration, qu'une mutation par scénario. C'était les parents qui ne croyaient pas à son existence. C'était les gamins qui voulaient être sages, qui montaient la garde. En général en haut de la falaise qui dominait notre ville, au bout du sentier des amoureux. C'était les gamins qui éliminaient le mutant. Et grâce à eux, on pouvait organiser en paix des danses de patronage et des pique-niques sur la plage. Pour les enfants de la guerre, les horreurs, à l'exception du stress psychique causé par la menace de la bombe, étaient sans exception des horreurs banales. Et peut-être qu'il est impossible de concevoir une horreur authentique quand on a le ventre plein. Les horreurs des enfants de la guerre étaient des horreurs à petite échelle. Et de ce point de vue, les films qui ont vraiment fait décoller AIP, Les Griffes du Loup-Garou et Défi pour Frankenstein, acquièrent un certain intérêt. Dans Les Griffes, Michael Landon interprète un lycéen séduisant mais à l'humeur maussade et au tempérament vif. C'est un brave gars au fond, mais il se retrouve toujours embarqué dans des bagarres. Tout comme David Banner, l'alter-ego de Hulk dans la série télé, ce n'est jamais Landon qui est à l'origine de ces bagarres. À tel point qu'il risque bel et bien d'être renvoyé du lycée. Il va donc consulter un psychiatre, Whit Bissell, qui interprète également le descendant de Victor Frankenstein dans « Défi pour Frankenstein », qui se révèle être totalement maléfique. Il conclut que Landon représente un stade antérieur du développement humain, disons en gros de l'âge des cavernes, et l'hypnotise pour achever de le faire régresser, aggravant son problème plutôt que de lui trouver une solution. L'expérience de Bissell réussit au-delà de ses rêves, ou de ses cauchemars les plus fous, et Landon devient un loup-garou enragé. Aux yeux d'un collégien ou d'un lycéen voyant sa transformation pour la première fois, c'était grave. Landon devient la fascinante incarnation de tout ce qu'on ne doit pas faire si on veut être sage. Si on veut avoir une bonne scolarité, être admis à la National Honor Society, être reçu dans une université de renom, adhérer à une fraternité étudiante et écluser des bières comme l'a fait papa. Landon se retrouve le visage couvert de poils, la mâchoire pleine de dents et les lèvres couvertes d'une substance ressemblant à s'y méprendre à de la crème à raser. Il reluque une fille qui s'est isolée dans le gymnase pour faire des exercices à la barre d'appui et on l'imagine aisément en train d'exsuder un parfum, rappelant celui d'un putois en rut qui vient de se rouler dans un tas de merde de coyote. Ne cherchez pas sur son torse une chemise bon chic bon genre d'aspirant étudiant. Voilà un mec qui n'a strictement rien à foutre des tests d'aptitude à l'enseignement supérieur. L'homme descend du singe, mais lui, il est remonté jusqu'au loup. Si ce film a connu un tel succès lors de sa sortie, c'est sans aucun doute en partie grâce au sentiment de libération qu'il a suscité chez ces enfants de la guerre qui voulaient tant être sages. Lorsque Landon attaque la jolie gymnaste en juste au corps moulant, il fait une déclaration de nature sociale au nom de ses spectateurs. Mais ceux-ci sont également horrifiés par ses actes, car au niveau psychologique, ce film est une série de préceptes à suivre, depuis « Tu te raseras avant d'aller à l'école » jusqu'à « Jamais tu ne t'exerceras dans un gymnase vide ». Après tout, les animaux sont partout. 6. Si Les Griffes du Loup-Garou représentent, du point de vue psychologique, l'expression ultime de ce célèbre rêve où votre pantalon vous tombe sur les chevilles alors que vous vous trouvez dans un lieu public, l'étranger velu menaçant les bons élèves du lycée de notre ville, alors Défi pour Frankenstein est une parabole malsaine sur le dérèglement glandulaire total. Ce film est destiné à tous les garçons et à toutes les filles de 15 ans qui ont découvert un beau matin dans leur miroir un point noir, ayant fait surface durant la nuit, et ont compris que même les Stridex Medicated Pads, ces remèdes miracles vantés par Dick Clark, seraient impuissants à résoudre leurs problèmes. Vous allez me dire que je reviens sans cesse au comédon. Vous avez raison. Autant l'avouer. Je considère les films d'horreur de la fin des années 1950 et du début des années 1960, disons jusqu'à Psychose, comme des hymnes au porc bouché. J'ai suggéré plus haut que l'horreur était hors de portée des gens au ventre plein. De la même manière, les Américains ont dû sévèrement limiter leur conception de la difformité physique. Et c'est pour cette raison que le point noir a joué un rôle important dans le développement psychologique de l'adolescent américain. Bien sûr, il se trouve probablement parmi mes lecteurs un homme ou une femme affligé d'un mal congénital qui est en train de grommeler « Ne me parle pas de difformité, connard !» Et il est exact qu'il existe des Américains au pied beau, des Américains sans nez, des Américains amputés et des Américains aveugles. Je me suis toujours demandé si ces derniers ne se sentaient pas discriminés par un des slogans de McDonald's « Gardez l'œil sur vos frites !» À côté de ces bourdes cataclysmiques dues à Dieu, à l'homme ou à la nature, les comédons paraissent aussi graves qu'une envie autour de l'ongle. Mais je suis bien obligé de remarquer qu'en Amérique, les bourdes cataclysmiques de ce genre représentent, du moins pour le moment, l'exception plutôt que la règle. Promenez-vous dans une rue américaine ordinaire et comptez les déficiences physiques que vous apercevrez. Si vous en trouvez plus d'une douzaine au bout de 5 km de marche, vous risquez de faire grimper les statistiques. Cherchez donc des moins de 40 ans aux dents gâtées jusqu'aux gencives, des enfants au ventre gonflé par la malnutrition, des hommes et des femmes au visage grêlé par la petite vérole. Vous chercherez en vain. Vous ne trouverez pas non plus de misérables au visage couvert de furoncles suppurants ou aux bras criblés d'ulcères non traités. Si vous visitez un centre sanitaire, vous apprendrez que sur 100 têtes blondes, on n'en trouve au plus que 4 ou 5 grouillantes de poux. Ces phénomènes, ainsi que d'autres aussi graves, sont certes plus fréquents dans les zones rurales ou dans les ghettos des métropoles. Mais dans les villes et les banlieues d'Amérique, la plupart des gens se portent bien. La prolifération des manuels de santé, le culte en pleine expansion de l'amélioration personnelle, pour citer Herma Bombeck, « Si ça ne vous dérange pas, j'ai décidé d'être plus résolu », et le développement foudroyant de l'activité consistant à contempler son nombril, prouve que, pour le moment, une majorité d'Américains a réglé le problème qui se pose de façon criante à une bonne partie du reste du monde, le problème de la survie. Je n'imagine pas une personne souffrant de malnutrition se plonger dans la lecture d'un livre tel que « D'accord avec soi et avec les autres », ni un père de famille nombreuse, cherchant désespérément à joindre les deux bouts, se passionner pour les théories de Werner Erhard sur les séminaires d'entreprise. De telles choses ressortissent au domaine réservé des riches. Joan Didion a récemment publié un livre intitulé « The White Album », où elle raconte la façon dont elle a vécu les années 1960. Je suppose que c'est un bouquin passionnant, si on est millionnaire. L'histoire d'une femme blanche et riche qui pouvait se permettre d'aller faire sa dépression à Hawaï, l'équivalent des points noirs pour les années 1970. Lorsque l'horizon de l'existence humaine se réduit à la survie au jour le jour, les perspectives s'altèrent. Pour les enfants de la guerre, qui vivaient dans un monde douillet, mais n'oublions pas la bombe. De visites médicales régulières, de pénicilline et de soins dentaires permanents, le comédon est devenu la difformité physique la plus importante parce que la plus visible. La plupart des autres déficiences avaient été éradiquées. Et comme j'ai évoqué les soins dentaires, je me dois de préciser que la plupart des gosses qui ont dû porter un appareil durant ces années, où la pression sociale était quasiment étouffante, le vivaient souvent comme une difformité. On entendait parfois résonner dans la cour de l'école les mots « Hé, gueule d'acier !» Mais la plupart des gens considéraient l'appareil dentaire comme une forme de traitement, guère plus remarquable que le bras en écharpe d'une jolie lycéenne ou le pansement sur le genou d'une vedette de l'équipe de foot. Mais le point noir n'a pas de remède. Et voici donc défi pour Frankenstein. Dans ce film, Whitby Sell assemble la créature, interprétée par Gary Conway, à partir des cadavres de jeunes chauffards. Les parties non utilisées sont livrées en pâture à des alligators planqués sous sa maison. Bien entendu, nous devinons assez vite que Bissell lui-même finira dans la gueule d'un alligator. Et nous ne sommes pas déçus. Dans ce film, Bissell est un méchant de la plus belle eau, atteignant des sommets existentiels dans le mal. Il pleure! Même les glandes lacrymales fonctionnent! Réponds-moi, tu as une langue dans la tête! Je le sais, c'est moi qui l'ai cousu! Mais c'est le malheureux Conway qui attire l'œil du spectateur et porte le film sur ses épaules. Tout comme la méchanceté de Bissell, la difformité de Conway est si horrible qu'elle en devient presque absurde. Et il ressemble à s'y méprendre à un lycéen dont l'acné a atteint des proportions cataclysmiques. Son visage évoque la carte en relief d'un massif montagneux d'où émerge un œil injecté de sang. Et pourtant, cette créature balourde et répugnante aime le rock'n'roll. Alors elle ne peut pas être totalement mauvaise, n'est-ce pas? Nous avons rencontré le monstre, et comme Peter Straub le fait remarquer dans Ghost Story, le monstre, c'est nous-mêmes. Nous aurons à nouveau l'occasion d'évoquer la monstruosité, et, espérons-le, d'en tirer des réflexions plus profondes que celles que peuvent nous inspirer les griffes du loup-garou et défi pour Frankenstein. Mais je pense qu'il est important de souligner le fait que, même à leur niveau le plus simple, ces contes du crochet accomplissent un certain nombre de prouesses sans même l'avoir voulu. On y trouve allégorie et catharsis, mais c'est seulement parce que le créateur d'horreur est avant tout un agent de la norme. Cela est vrai de l'horreur à caractère physique, et nous verrons que tel est aussi le cas des œuvres plus consciemment ambitieuses. Même si, lorsque nous nous intéresserons aux qualités mythologiques de l'horreur et de la terreur, nous risquerons de découvrir des associations plus troublantes et plus énigmatiques. Mais avant d'en arriver là, nous devons quitter le domaine cinématographique, du moins pour un temps, et nous intéresser à trois romans qui forment la majeure partie des fondations sur lesquelles a été bâtie l'horreur moderne.